bienvenue dans cette émission. Des messages incitant à la haine tribale et à la xénophobie sont de plus en plus utilisés dans les médias classiques, dans les réseaux sociaux et dans les discours de certains acteurs sociopolitiques. C'est le constat fait par plusieurs ONG telles que Asado Akaj ainsi que la MONUSCO et la CENCO. Ces organisations viennent dans leur récente communication de fustiger ces phénomènes. Le député national Gary Sakata a initié une proposition de loi contre le tribalisme, la xénophobie et le racisme. Une loi qui, selon l'élu, vise à renforcer l'authentique cohésion nationale et à promouvoir les conditions propices d'y vivre ensemble. La loi Sakata prévoit aussi, entre autres, la consécration d'une institution permanente de surveillance de l'action contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie, mais également l'évaluation périodique des mesures anti-discriminatoires par les parlements. Que pensez-vous de ces phénomènes et d'une loi pour les décourager? Et quelle autre stratégie complémentaire faut-il pour prévenir et décourager les messages appelant à la haine tribale, à la xénophobie et au racisme? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir. Et nous recevons dans cette émission professeur Gary Sakata. Il est député national et initiateur de la proposition de loi contre le tribalisme, la xénophobie et le racisme. Bonsoir professeur Gary Sakata.
Bonsoir Guy Maté.
Abdelaziz Thioy, il est directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Bonsoir Abdelaziz Thioy.
Bonjour Guy Maté.
Et maître Charles Moufizi, il est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est aussi directeur du Centre des réformes juridiques et institutionnelles CRJ en sigle. On me dit qu'il n'est pas encore là, on va les rappeler. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, condamne la multiplication des messages incitant à la haine tribale, à la violence et à l'hostilité entre les communautés observées dans plusieurs provinces du pays, y compris à Kinshasa. Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO, a rapporté ces messages de la chef de la mission onusienne mercredi dernier au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. Les propos de Mathias Gilman recueillis par Honoré Missenga Kalala.
C'est particulièrement vrai et particulièrement inquiétant dans les zones qui sont le plus touchées par la violence armée, mais on a aussi constaté une recrudescence de ces messages de haine, de ces appels à la haine tribale, à la haine ethnique, ici à Kinshasa, dans le Maïndombe, dans le Katanga. Donc c'est vraiment une problématique nationale, et encore une fois, dans le contexte d'une montée en puissance et d'une mobilisation des forces de sécurité, il est absolument important que tous les Congolais se mettent derrière leur armée et fassent preuve d'une cohésion nationale. La cohésion nationale est extrêmement importante pour arriver à neutraliser les groupes armés et à créer un environnement protecteur, une atmosphère qui permette la restauration de l'autorité de l'État, là où l'État est encore trop faiblement présent.
Professeur Gary Sakata, je rappelle que vous êtes député national et initiateur de la proposition de loi contre le tribalisme, la xénophobie et le racisme. D'abord, en initiant cette proposition de loi, quelles étaient vos motivations?
Moi, j'ai voulu d'abord merci pour la parole que vous m'accordez. J'ai voulu résoudre un problème qui est désormais récurrent dans notre pays. C'est que il y a beaucoup de relents de survalorisation des groupes par rapport à d'autres et principalement le rejet également de l'autre. À travers les guerres que vous voyez à l'Est, dans le Maïndombe qu'on vient de le dire, l'on se rend bien compte qu'il y a là le rejet de l'autre. C'est la xénophobie. Il y a là également une forme de tribalisme, donc de donner le privilège à une tribu par rapport à d'autres. C'est ces problèmes que j'ai voulu résoudre en tant qu'élu du peuple.
Alors, dans cette proposition de loi, vous prévoyez notamment la consécration d'une institution permanente de surveillance de l'action contre les tribalismes, les racismes et la xénophobie. Dans le système de communication auquel nous sommes habitués dans les contextes congolais, professeur, dans la communication verbale, gestuelle et écrite, quels sont les éléments du langage sur lesquels cette structure pourrait-elle se baser pour justement accomplir son travail de surveillance? Les éléments du langage.
Le travail de surveillance consistera effectivement à affiner et aussi bien les réseaux sociaux, la presse locale, même internationale, les différents gestes et paroles qui seront utilisés par les citoyens et qui pourraient être de nature à inciter à la haine, à la jalousie et à la discrimination.
Est-ce qu'il n'y a pas risque d'abus de la part de cette structure qui pourrait, n'est-ce pas, abuser du pouvoir qu'elle a pour considérer, lorsque elle se rend compte qu'il y a des messages, n'est-ce pas, qui ne plairaient pas au gouvernement ou au pouvoir, tout de suite la structure considère ça comme étant des messages appelant à la haine tribale ou à la xénophobie, alors que en réalité, c'est des messages qui ne s'apparentent pas, n'est-ce pas, à la haine et à la xénophobie. Est-ce qu'il n'y a pas risque d'abus de la part de cet organe?
Alors, mais dans l'orientation que je lui confère, pour moi, cette institution doit être une sorte d'institution d'appui à la démocratie et qui ne sera pas surveillée que par le gouvernement. Il sera sous également l'autorité, principalement du Parlement, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc pour moi, dans l'idée, parce que les principaux acteurs des abus en ce qui concerne le tribalisme, la xénophobie, le racisme, je le considère comme étant aussi bien les citoyens tout court que le gouvernement lui-même. C'est pour ça que cette institution n'est pas, à mon sens, sous l'autorité du gouvernement. Il sera, dans l'orientation que je lui confère, sous l'autorité du Parlement, donc Assemblée nationale et Sénat.
Et quelles sont les autres innovations qu'apporte votre proposition de loi?
Le texte en entier est constitué de plusieurs innovations. Comme vous avez dit, je reconnais par exemple à cette institution le pouvoir d'ester directement en justice, en lieu et place de certaines personnes victimes du tribalisme, du racisme ou de la xénophobie qui auraient peur, par exemple dans le cadre de leur travail, ils auraient par exemple peur d'aller de porter plainte contre leur chef, leur employeur, sous peine de perdre leur boulot. Donc l'association pourrait éventuellement prendre le relais. Et cette institution va également évaluer de manière périodique les mesures antidiscriminatoires. Il y a plusieurs autres infractions ou incriminations que j'ai fait introduire dans la proposition. Notamment, je considère l'outrage à la tribu, la diffamation à la tribu, la provocation et l'incitation à la discrimination tribale ou encore l'abus des pouvoirs tribales comme étant des infractions qui seront sanctionnées. Et toutes ces infractions, je les définis bel et bien. Parce que chez nous, ici, on prend ça pour de la blague, et il y a souvent beaucoup d'outrages à la tribu ou d'abus de pouvoir tribal où quelqu'un est nommé responsable pour le compte de son parti. Le parti est constitué de plusieurs des personnes des citoyens de tout le pays, mais on n'engage que les gens d'une seule tribu. Et tout ça, ça fait partie de ce que je considère comme étant infraction qui ne favorise pas la cohésion et l'unité nationale.
Des propos qui appellent à la haine tribale, à la xénophobie, c'est des propos que nous avons eus depuis plusieurs années dans ces pays à bannir, n'est-ce pas, de nos messages. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer la réapparition de ce phénomène aujourd'hui?
La réapparition de ce phénomène aujourd'hui, à mon sens, s'explique par le fait que le gouvernement et les cours et tribunaux, pour peu que certains puissent essayer de commettre ce genre d'infraction, ceux-ci restent impunis. Alors les gens se croient dès lors permis de continuer sur cette voie. C'est pour ça que si une personne a commis ce genre de forfait en insultant ou en faisant prévaloir sa tribu ou en manifestant une haine à l'égard d'autrui, donc c'est la xénophobie, ou carrément du racisme, qui sont non sanctionnés, et ceux qui viennent après se disent que pensent même que l'infraction n'est pas prévue. Donc c'est pour ça qu'il faudrait renforcer le système législatif pour que désormais, que l'on sache que lorsque vous dites à quelqu'un « t'as là mouillant si haut », par exemple, pour ne prendre que cet exemple, que l'on puisse considérer ça comme étant infractionnel et sanctionné.
On a l'impression que cette question ne constitue pas une priorité pour l'État congolais, hein, parce que la loi, vous l'avez la proposition de loi, vous l'avez déposée au bureau du Parlement depuis environ une année, mais on n'arrive toujours pas à l'examiner. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une priorité pour le gouvernement congolais?
Mais je pense, pour moi, c'est une priorité très urgente, à mon sens, parce que regardez, pour moi, La proposition de loi sur le tribalisme, le racisme et la xénophobie va de pair avec l'organisation et le fonctionnement de la CENI, ainsi que la loi électorale. Pour moi, ça constitue une forme de triptyque pour un climat apaisé lors des prochaines élections, mais pas seulement que ce triptyque qui serait composé ou qui est composé de la loi sur le tribalisme, la xénophobie et racisme ensemble avec la loi sur la CENI, mais également, il y a aussi des questions d'insécurité à l'est du pays. également à Maïndo, mais donc à l'ouest, vous avez entendu certains leaders politiques locaux ont fustigé la haine, l'intolérance. Vous avez également entendu avant-hier, les évêques ont fustigé le tribalisme. Donc pour moi, il s'agit là d'une urgence, au même titre que les autres lois, parce que si on adopte une loi et qu'on laisse les autres aspects, celle-ci ne sera pas parfaite en vue des prochaines élections. Il faudrait que ce soit un triptyque.
Est-ce que vous avez la même perception que les bureaux qui traînent, n'est-ce pas, à soumettre cette loi à l'examen à l'Assemblée nationale?
Donc je confiance au bureau. La proposition de loi a été déposée depuis le 7 septembre 2020. Ça a un peu disparu de la circulation. En interne, je pense bien que, et j'en suis sûr, les bureaux d'études a déposé son rapport au bureau. Les bureaux doivent maintenant mettre ça à la plénière pour que la proposition puisse passer. Et moi, je suis confiant que le bureau ne tardera pas à mettre ça dans le calendrier pour que l'on puisse passer en plénière.
Merci, professeur Gary Sakata. Nous vous gardons encore dans cette émission. Abdelaziz Diop, je rappelle que vous êtes directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Que pensez-vous de ces phénomènes auxquels on assiste, on entend depuis un certain moment dans les médias classiques, à travers les réseaux sociaux, des messages appelant à la haine tribale, à la xénophobie et même au racisme. Que pensez-vous de ces phénomènes, Abdelaziz Diop?
Merci beaucoup, chers collègues, et c'est un plaisir de partager aujourd'hui le plateau avec l'honorable Gary Sakata, qui a eu le privilège et l'honneur de présenter la proposition de loi, qui, comme on le sait, a pour objet de revoir et de réviser l'ordonnance loi de 1966. Donc, pour dire que le sujet est très actuel et cette préoccupation ne date pas de maintenant, pour la République démocratique du Congo, et la proposition de loi, l'exposé des motifs, le préambule, il fait référence de façon très claire. Juste pour dire et confirmer ce que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Mme Bintou Keïta, a dit il y a quelques jours au nom de toutes les Nations Unies pour exprimer sa préoccupation face à la multiplication des discours incitant à la haine, à la discrimination et à l'hostilité. C'est un phénomène que nous avons documenté dans le cadre de notre mandat de droits de l'homme, au moins déjà au cours des dernières élections, au cours de la campagne de la période préélectorale, durant les élections, après les élections de 2018, nous avons vu effectivement quelques messages qui appelaient à la haine, qui pouvaient être considérés comme incitant à la haine ou à la discrimination dans une certaine mesure, ou à l'hostilité contre certaines composantes politiques ou certains groupes, certaines communautés. C'est quelque chose que nous avons documenté et je demande à tout le monde de se référer au rapport qui nous avait été demandé par le Conseil des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme avant, pendant et après les élections, où nous avions noté effectivement que certains leaders politiques avaient eu recours à des messages qui pouvaient être considérés comme incitant à la haine et à la violence. J'insiste beaucoup sur l'incitation parce que c'est en fait ce qui pose problème, c'est l'incitation. Parce qu'il nous faut faire très très attention et c'est un peu l'objet d'ailleurs de la stratégie des Nations Unies sur les discours de haine et aussi le plan de Rabat qui a été élaboré par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et qui développe 6 critères qui sont très clairs, qui pour beaucoup tiennent à l'identité de l'auteur du message et également la répercussion que le message pourrait avoir sur l'ampleur que ce message pourrait avoir sur le comportement d'un certain nombre d'individus et des éléments liés au contexte également. Donc, surtout pour éviter que les droits qui sont reconnus par le pacte international sur les droits civils et politiques, ratifié par la RDC en son article 20, qui consacre et garantit le droit à la liberté d'expression, qu'on ne puisse en venir à limiter, sous prétexte de lutter contre l'incitation à la haine, à la xénophobie, à la discrimination, à l'hostilité, qu'on en vienne à se servir un peu de cela comme étant un prétexte pour réduire ou restreindre l'exercice de la liberté d'expression.
Abdelaziz Diop.
Oui.
Oui, justement, dans les travaux du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, quelles sont les provinces où vous avez documenté plus de propos qui s'apparentent au tribalisme et à la xénophobie?
nous avons mis en exergue la situation, notamment dans le Sud Kivu. Le Sud Kivu est très concerné par ce type de messages et de discours, également de la part de Congolais qui sont présents au Congo, mais aussi dans la diaspora. Nous avons aussi l'Ituri, nous avons le Maïdombé, nous avons également le Sankuru, et nous avons eu également le Katanga. Donc, je pense qu'il est assez facile de retrouver à peu près l'essentiel des provinces qui sont les plus concernées par les messages qui incitent à la haine ou à la discrimination. Et ces messages ont été diffusés souvent dans le contexte de compétition politique, ou comme appui à l'appui d'un discours pour parler de la lutte contre l'impunité, ou dans un contexte purement électoral ou d'événements qui concernent la vie économique, sociale et politique de la RDC. Cela est extrêmement important. Nous considérons aujourd'hui que les messages qui incitent à la haine, à la discrimination, à l'hostilité sont une menace à la paix et à la sécurité. C'est l'une des plus grandes menaces que nous pouvons avoir aujourd'hui. Vous avez vu dans le Maïdombé, vous avez vu le problème entre les Lendu et les MH. Nous avons vu les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le Katanga. Nous avons vu également les questions dans les affrontements intercommunautaires dans ce Kivu. Il est important, le potentiel pour ces messages d'entraîner une violence à grande échelle est très très élevé. Donc partout où nous avons pu dans le monde documenter des massacres de masse, des tueries de masse, c'est dans le contexte de conflits intercommunautaires. Et qui dit conflit intercommunautaire dit forcément l'utilisation et la diffusion de messages à travers différents supports qui peuvent être papier, audiovisuel, ou simplement depuis quelque temps avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information, l'outil Internet et les réseaux sociaux sont un élément d'accélérateur de la diffusion et de la dissémination de ces messages-là. D'où la nécessité et l'importance de trouver des institutions de régulation. J'ai noté la proposition qui est faite par l'honorable Gary Sakata, et je me réjouis qu'il pense à faire les liens avec les institutions de promotion de la démocratie. Moi, je penserai plus, et c'est un débat qui a eu lieu il y a quelques semaines avec la Commission nationale des droits de l'homme et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par la suite, on a eu une autre discussion avec les membres de la Commission des droits humains du Parlement pour que l'une de ces deux commissions, et principalement d'ailleurs le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est déjà une institution de promotion de la démocratie, puisse être renforcée, équipée et formée de manière à pouvoir jouer ce rôle-là de surveillance et d'observation de la diffusion des messages qui sont diffusés aujourd'hui et pour lesquels, en grande partie, comme je l'ai indiqué, c'est à travers l'espace virtuel.
Monsieur Abdelaziz, vous fustigez les messages de certains acteurs politiques pendant la campagne électorale. Est-ce que vous n'avez pas identifié aussi des facteurs sociologiques, facteurs économiques pouvant justifier, n'est-ce pas, la réapparition de ces phénomènes?
Si. C'est pour ça que j'ai dit des aspects qui sont liés à la vie économique, sociale et culturelle du pays. Si vous allez dans le Tanganyika, par exemple, vous avez, par exemple, un conflit qui existe depuis plusieurs siècles entre les Bantous et les Twas, par exemple. Donc, vous pouvez bien imaginer que dans ce contexte-là, il y a un problème, un conflit qui existe, mais qui peut être aussi sujet et un terreau fertile pour certains individus de l'utiliser comme facteur, comme véhicule pour disséminer et diffuser des messages. On a eu la même chose dans le contexte du Sud Kivu entre ce que les Congolais considèrent comme des non-Congolais, permettez-moi juste de le dire comme ça, c'est une communauté à qui on dénie aujourd'hui une appartenance nationale. On l'a vu aussi ailleurs, où de façon très claire pour des raisons économiques, certains appellent d'autres à quitter le territoire parce qu'ils seraient des non-originaires. Nous l'avons vu aussi dans le Congo central, j'avais oublié de le mentionner, où on a vu un leader mystico-religieux appeler les non-originaires à quitter la province du Congo central. Donc, nous avons plusieurs cas que nous avons documentés et qui nous ont servi d'éléments d'analyse pour voir si le seuil à partir duquel on peut considérer ces messages-là comme étant des messages incitant à la haine ou à la discrimination raciale, tribale, communautaire et autres, ou à l'hostilité, était atteint. Et c'est sur cette base-là que nous avons considéré 30 cas que nous avons mis dans le rapport que nous avons publié en mars de cette année, et qui est un rapport extrêmement important, qui identifie des recommandations à l'endroit de la société civile
du Parlement, des acteurs politiques, mais également du gouvernement, ainsi que de la communauté internationale. Ce qui est important, et Gary, l'honorable Gary l'a dit, il faut investir dans la prévention. Il faut investir dans la prévention pour changer la perception, ce sentiment de stéréotypes, le sentiment d'exclusion de l'autre. Accepter nos différences comme une richesse dans un grand pays comme la RDC, et savoir en réalité que ça peut beaucoup plus permettre d'impulser le développement que plutôt que d'exacerber les fragilités que nous avons vues et qui existent encore, encore dans le pays. Merci.
Merci. Nous avons annoncé Maître Charles Mouchizi qui devait être avec nous dans cette émission, mais on n'arrive pas à les joindre. Son téléphone sonne, mais il ne décroche pas. Et nous allons aussi écouter les points de vue des auditeurs qui sont en train d'appeler, n'est-ce pas, pour réfléchir avec nous au sujet de cette question. Professeur Gary Sakata, vous allez réagir à cette réflexion de cet auditeur qui nous appelle depuis Calémie.
Depuis Calémie, le tribalisme, le racisme et la xénophobie sont les conséquences logiques de la géopolitique qui divise les peuples congolais unis par les mêmes destins, partageant les mêmes destins du pays, pendant le traitement inégalitaire observé dans les couches sociales, conduit à ce phénomène inhumé à cause de la pluralité des tribus en RDC, dont l'essence aux multiples structures revêtues d'un caractère tribal, tout en le vouloir de sauvegarder les intérêts. En effet, l'élaboration d'une loi pour limiter ce phénomène serait un fil conducteur dans le sens qu'elle interdirait tout message de félicitation ou compassion dans le préambule tout ressortissant des « ceci doit être aboli ». Donc, nous suggérions que la suppression de certaines arrestations, groupements et la diminution des nombres de tribus en RDC serait un facteur positif de chasser ce phénomène voici les Congolais.
Professeur Gary Sakata.
Oui, je remercie beaucoup l'auditeur. Pour moi, il faudrait considérer que l'humain passe avant tout. Donc, quelle que soit son origine, sa forme, c'est l'humain qui passe avant tout. Ce qu'on devait mettre en avant selon le secteur, c'est la capacité, la compétence de celui qui a fait ce qui est appelé à faire et non pas son appartenance à tel ou tel autre groupe. Je voudrais quand même rappeler que le phénomène de tribalisme, de racisme et de xénophobie constitue, à mon sens, des fléaux hideux et inutiles qui ne font pas prospérer notre pays. Parce qu'au niveau de leur capacité de nuisance, comme je l'ai dit dans l'exposé des motifs de ma proposition de loi, cela ressemble fort bien à la corruption et constitue et entraîne un retour en arrière par rapport sous l'aspect du développement. C'est donc, pour moi, un mal social. Alors, pour aller plus loin par rapport à ce que l'interlocuteur ou l'auditeur a dit, voyez-vous que ces trois fléaux emportent plusieurs conséquences souvent négatives. C'est que on arrive à la destruction de la cohésion nationale et de l'unité nationale. Mais pas seulement. Ces trois fléaux constituent, à mon sens, aussi une distraction du peuple et des citoyens par rapport aux enjeux et défis majeurs qui devaient s'imposer au pays. Parce que lorsqu'on applique le tribalisme, le racisme et la xénophobie, le peuple, au lieu de se focaliser sur l'intérêt du pays, son intérêt, lui, en tant que peuple, il est plutôt tourné vers la défense des animateurs avec pour seul critère l'appartenance à un même espace géographique.
Vous avez suivi cet auditeur qui nous appelle, qui vient nous appeler des Calémies, qui suggère la suppression des associations à caractère tribal, et il pense que cela peut nous aider, n'est-ce pas, à prévenir ce genre de phénomènes.
Moi, je suggère dans ma proposition de loi, il y a une disposition qui prévoit que les associations à caractère tribal sont bel et bien interdites, et on y prévoit d'ailleurs une sanction aussi bien à charge des initiateurs de la dite association qu'à charge de l'autorité administrative qui a délivré le permis ou l'autorisation de fonctionner.
Est-ce que tout ne part pas aussi de nos textes et des lois, les textes qui régissent les pays? Vous avez, comme par exemple aujourd'hui dans la territoriale, pour être ministre dans un gouvernement provincial, il faut être ressortissant de cette province. Pour être gouverneur ou vice-gouverneur, il faut être ressortissant de cette province. Or, c'est des approches qui ont montré, n'est-ce pas, leurs limites. On se rappelle qu'à l'époque du régime du maréchal Mobutu, on prenait les Congolais de n'importe quelle origine, on les envoyait dans n'importe quelle province, et le travail se faisait sans problème. Il y a eu des gouverneurs comme Koya Diallo, qui n'était pas originaire du Katanga, mais qui a été au Katanga et qui a bien dirigé cette province. Il y avait Konde Vida Kikanda, qui n'était pas originaire du Nord Kivu, mais qui a été là-bas et qui a bien fait son travail là-bas. Est-ce que vous qui êtes qui avez comme vocation proposer les lois, est-ce que vous ne pouvez pas proposer des lois pour réformer, n'est-ce pas, certains textes de ces pays afin qu'on revienne à l'ancien système qui avait des résultats positifs?
Oui, mais vous savez, dans la limite de mes connaissances, je dois avouer, dans la limite de mes connaissances, je ne pense pas, même pas qu'il y ait une règle obligatoire, une loi légale, enfin, une loi ou un règlement qui impose à ce que l'on ait toujours le député parce qu'il est un député parce qu'il serait originaire de telle province, ou un ministre provincial parce qu'il est originaire de telle ou telle autre province. Il s'agit là des pratiques que nous cultivons et qui sont condamnables, parce que ces pratiques nous conduisent à une forme de repli identitaire. Et vous connaissez bien les conséquences. Donc, pour moi, ce sont ces pratiques, il n'y a pas une règle impérative qui impose à ce qu'un membre du gouvernement provincial soit originaire du pays. C'est dans l'imaginaire collectif que les gens se font cette idée actuellement. Mais si quelque part, l'on encourage au niveau des partis politiques que l'on puisse commencer à désigner des ministres provinciaux qui ne soient pas de province, je vois que la situation pourrait s'améliorer. Ce qui est à améliorer, c'est notre manière quotidienne de fonctionner, parce qu'aucune loi n'impose cela.
Et vous ne pensez pas que l'équilibre géographique imposé par la Constitution soit aussi un des facteurs qui puisse favoriser ces phénomènes?
Ah non, mais exactement, du contraire. Du contraire, parce que quand on parle de l'équilibre géographique, les constitutions ou la loi ne veut pas, invite exactement les partis à ne pas prendre les gens d'un seul endroit, mais prendre les gens en tenant compte de l'espace géographique national. C'est au niveau national. C'est à cause de ça qu'on utilise l'expression espace géographique dans notre constitution. C'est pas pour inciter les gens à prendre les personnes du même tribu, du même territoire, mais plutôt à inciter ceux qui sont appelés à désigner à étendre leur choix sur l'ensemble du territoire national.
Abdelaziz Etioy, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Mweka.
Oui, c'est Okunyi Langue François depuis Kassai à Mweka. Les problèmes des tribalismes en RDC, comme les députés et les ONG en ont parlé, c'est une réalité, monsieur et les journalistes. Surtout le découpage territorial a beaucoup enfoncé dans les tribalismes. Les services provinciaux n'en parlons pas. La révision constitutionnelle au sujet des élections de gouverneurs, il faut les candidats originaires, voire même les ministres provinciaux. C'est pour décourager le système de tribalisme et les antivaleurs. Vous savez, monsieur le journaliste, moi, je voulais vraiment qu'on puisse souligner les dossiers des autorités provinciales. Si nous avons des gouverneurs qui viennent, par exemple, un gouverneur qui quitte Nord Kivu vers la province du Kasaï serait mieux. Un gouverneur qui quitte Congo central vers le Kasaï central serait mieux pour équilibrer le tribalisme dans nos provinces, monsieur journaliste.
Abdelaziz Tioy.
Oui, dit. Et je voudrais rapidement dire ceci. Le Congo est un État unitaire décentralisé. Donc, les gens sont élus sur la base de ces constitutions électorales. Donc, et le système électoral tel qu'il existe, ce sont les assemblées provinciales qui désignent les gouverneurs. Bon, cette réflexion est amenée par les acteurs politiques qui doivent s'entendre sur peut-être les critères de désignation ou d'élection des gouverneurs. La constitution est claire. Je pense que tous les Congolais sont égaux. C'est le principe de l'égalité. Donc l'égalité qui aussi crée les conditions pour une égalité d'accès aux postes électifs et également aux postes administratifs, les postes auxquels vous pouvez être nommé. Donc évidemment suivant certains critères qui dépendent de la compétence et des critères que l'honorable Gary a évoqués. Mais il est important, il n'est pas toujours dit que oui, l'existence d'associations culturelles évidemment peut être porteuse de certaines dérives. Si les individus qui les animent n'ont pas la conscience de l'appartenance nationale. Ce qui est important, c'est de promouvoir et de renforcer l'appartenance nationale chez tous les individus. La nécessité pour tous les individus de s'identifier comme étant, quelle que soit leur différence, que vous soyez, vous appartenez à telle tribu, à telle communauté ou à tel groupe ethnique, vous appartenez à une collectivité qui est la nation congolaise. Donc c'est extrêmement important. Et cela, il est important de l'inculquer dès le jeune âge. C'est à ce niveau-là que les individus s'identifient. C'est le niveau de socialisation des normes et des valeurs. Et c'est au niveau des écoles, c'est au niveau des centres de formation, c'est dans les quartiers, dans les villages et autres qu'il faut inculquer aux enfants et aux jeunes le sentiment d'appartenance à un seul et unique ensemble, quelle que soit la diversité d'appartenance tribale, qui en réalité devrait être une richesse et pas un inconvénient. C'est ce que je voudrais répondre. L'idée de nomination du gouverneur, ça c'est un point, je pense, si les Congolais le jugent pertinent et nécessaire, pourquoi pas. Mais n'oublions pas effectivement que nous sommes dans un État héritaire avec un système de décentralisation adossé aussi à une déconcentration. Merci.
Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est un partenaire, n'est-ce pas, du gouvernement congolais. Monsieur Abdelaziz Tioy, comment vous jugez la gestion de ce phénomène par le gouvernement, hein? Apparemment, rien de concret ne s'est fait. Il y a même cette proposition de loi dont nous parlons ici du professeur Gary Sakata qui traîne depuis une année à la table du bureau de l'Assemblée nationale sans qu'il ne soit examiné. Comment vous jugez la gestion de ces problèmes par le gouvernement congolais? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une priorité pour le gouvernement congolais?
Écoutez, je ne peux que juger à partir des déclarations que j'ai notées. J'ai vu au plus haut niveau, quand il y a eu ce levé de bouclier face à la multiplication de tout ce qui est discours de haine et discours incitant à la discrimination, des appels venant des plus hautes autorités de l'État, en commençant par le chef de l'État. Il y a d'autres ministres qui également ont fait des déclarations publiques. Il y a des hommes politiques de l'opposition, des acteurs, des parlementaires, des députés et des sénateurs ont cru bon d'appeler et de rappeler la nécessité de ne pas aller vers cette direction-là, de ne pas franchir les lignes rouges et de rappeler à tous que c'est très dangereux d'utiliser ce type de discours. Évidemment, on peut dire qu'il faudrait joindre l'acte à la parole, c'est-à-dire, en plus, outre ces messages-là, peut-être légiférer ou faciliter l'adoption rapide, moyennant peut-être quelques révisions ou quelques ajustements, la proposition de l'honorable Gary. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience collective de ce que je peux confirmer suite à la dernière discussion que nous avons eue au Pullman avec les députés de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, où toute obédience ou affiliation politique confondue, ils ont tous été unanimes à reconnaître que c'est un fléau et c'est une menace et un risque réel sur la cohésion nationale, la stabilité et la paix en RDC. Et ils se sont tous engagés dans discuter au niveau de l'Assemblée nationale et d'essayer de voir concrètement comment proposer des voies et moyens de réellement les prévenir, mais aussi travailler, avoir un arsenal juridique qui permette davantage de réprimer tout cela.
Maître Charles Mushizi, qui est avocat au barreau de Kinshasa Matete, qui est aussi directeur du Centre des réformes juridiques et institutionnelles, on devait l'avoir dans cette émission, mais on n'arrive toujours pas à les joindre. Professeur Gary Sakata, à part la proposition des lois contre le tribalisme, la xénophobie et le racisme que vous avez initié et qui est déjà déposé au bureau de l'Assemblée nationale, quelle autre stratégie complémentaire faut-il pour prévenir et décourager les messages appelant à la haine tribale, à la xénophobie et au racisme?
Il y a plusieurs stratégies. C'est qu'on peut par exemple demander aux leaders d'opinion de faire passer des messages de ce genre devant la presse pour tenter de décourager toutes les personnes qui tenteraient d'exacerber ou d'inciter à la haine ou à la xénophobie, au racisme, au tribalisme. Et on peut également inviter les universités, les écoles à faire passer le même message parce que de toute manière, ça devait commencer par là. Ça peut même commencer par la famille. Mais disons, donc chaque citoyen est interpellé. Pour moi, la meilleure stratégie, c'est la communication. La communication à tout niveau, en commençant par le niveau de famille, en passant par celui des milieux scolaires, des milieux académiques, finalement pour atteindre, comme dans notre pays, vous voyez qu'il y a beaucoup de croyants, on peut également et principalement atteindre les églises, vous voyez quelle est l'influence que l'église catholique a sur les citoyens, ou les églises chrétiennes, les églises musulmanes aussi, on peut passer par eux pour faire passer un message. S'il y a un spot qui passe, je crois que ce sera quand même une contribution à la réduction de l'exacerbation, à l'incitation à la haine et aux autres fléaux qui gangrènent notre société.
le gouvernement peut aussi, n'est-ce pas, envoyer des notes, par exemple, à Facebook pour lui demander de bloquer ce type de messages, puisque il peut y avoir aussi des officines, n'est-ce pas, qui travailleraient avec comme objectif de monter les Congolais contre les autres Congolais. Or, lorsque le gouvernement reste passif, c'est comme s'il encourageait cela. Il y a toujours possibilité, n'est-ce pas, pour le gouvernement de pouvoir saisir Facebook ou les autres organes, n'est-ce pas, qui gèrent ces réseaux sociaux pour pouvoir, chaque fois quand il y a des messages qui s'apparentent à la haine tribale ou à la xénophobie ou au racisme, de pouvoir bloquer ces messages, n'est-ce pas, professeur Gary Sakata?
Ça peut être aussi une, oui, vous avez parfaitement raison, mais cela contribuerait effectivement, pas seulement Facebook, comme vous l'avez dit. Et le gouvernement devrait, d'ailleurs par l'intermédiaire de l'institution que je propose, assurer une surveillance de la bonne gouvernance sur la question. Donc cette institution dont je propose de la création, viserait, aurait également pour objectif la surveillance de tous ces réseaux sociaux en vue de mieux vivre parmi les citoyens.
Abdelaziz Etioy, quelle autre stratégie, à votre avis, complémentaire faut-il pour prévenir et décourager les messages qui appellent à la haine tribale, à la xénophobie et au racisme?
Je pense qu'il est important, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de beaucoup investir dans la prévention. Investir dans la prévention, logement, ce que le malade Gary disait, c'est-à-dire sensibiliser au plus haut niveau dans les familles, au niveau des quartiers, dans les villages et autres, et surtout à l'école. Surtout à l'école. L'école est, par définition, l'endroit de socialisation des normes par les citoyens du pays, surtout notamment les jeunes. C'est à ce niveau-là qu'il faut commencer. Je pense qu'il est important. Ce n'est pas seulement la RDC, rassurez-vous, c'est pratiquement tous les pays aujourd'hui qui sont concernés par ce fléau. Vous avez vu en France récemment un débat sur cette question-là. Vous avez vu aussi d'autres pays qui ont commencé à légiférer et essayer de réguler l'utilisation des réseaux sociaux, qui sont devenus de plus en plus des espaces où la violence est exercée sur d'autres individus, même si c'est de façon virtuelle. Donc il est important, de la même façon que des efforts sont faits pour réguler, assainir et créer les conditions pour un exercice libre des droits et des libertés dans l'espace civique que nous connaissons tous, dans les rues, les places publiques et autres, de la même manière, il faut le faire aussi sur ce qu'on appelle l'espace digital, qui est aujourd'hui un espace d'expression, qui est un espace de rencontre et d'expression des idées et des opinions, où il faut nécessairement créer les conditions pour que sa vocation première ne soit pas dévoyée au service d'une violence qui est virtuelle et qui est exercée sur des individus, des communautés, des groupes, et qui sape le comment vouloir de vie commune, ou pour ne pas dire vivre ensemble, c'est la même chose, mais aussi l'appartenance nationale, qui est un sentiment fort qui doit, je pense, animer tous les citoyens, de manière à se reconnaître dans le projet et la vision commune de bâtir un pays libéré de tout ce qui est facteur de violence et tourner définitivement vers la paix et son développement de façon durable.
Vous avez relevé, n'est-ce pas, les discours de certains hommes politiques pendant la campagne électorale. Est-ce que vous avez déjà envisagé au Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, envisagé d'entrer en contact avec ces leaders politiques qui sont identifiables pour leur demander quelles sont les motivations, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent propager ces genres de messages et voir aussi dans quelle mesure on peut les mettre à profit pour faire passer, n'est-ce pas, des messages qui puissent, n'est-ce pas, sensibiliser la population à ne pas rejeter l'autre, à ne pas condamner l'autre parce qu'il n'est pas de la même tribu que lui?
Écoutez, l'essentiel des messages que nous développons et qui, souvent, pour la RDC, procède de l'analyse de situation et des problèmes que nous avons notés, font l'objet d'une diffusion. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux d'engagement. Et ces engagements-là, ces messages sont repris à la fois par la représentante spéciale dans ces engagements avec tous les acteurs politiques et ses adjoints avec tous les acteurs politiques, ainsi que tout ce qui, à l'intérêt des Nations Unies, ont un rôle de good office, de bons offices, c'est-à-dire de s'engager avec les autres pour faire passer des messages ou essayer de comprendre ou faciliter, jouer un rôle qui pourrait s'assimiler à de la médiation. C'est un travail qui est fait de façon régulière, par moi-même, dans mon rôle de représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans le pays, par la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Bintou Keïta, et ses deux adjoints, ainsi que tous les autres acteurs à l'intérieur de la MONUSCO qui ont ces responsabilités-là, dans leur engagement avec les autorités politiques administratives, mais également tous les responsables des partis politiques, toute affiliation ou obédience confondue, pour qu'ensemble, qu'il y ait une mobilisation générale pour combattre et dénoncer ce phénomène-là. Parce que je dis, et je le répète encore une fois, il faut agir pour prévenir la violence, il faut agir pour prévenir l'incitation à la discrimination, à l'hostilité, et cela, il faut le faire maintenant. Il ne faut pas attendre que les élections arrivent pour commencer le faire. C'est quelque chose que nous avons noté, que nous avons commencé à faire depuis les dernières élections, où nous avons définitivement à plusieurs reprises communiqué là-dessus et rappelé à tous que c'est un crime que d'inciter à la violence, c'est un crime que d'inciter à la discrimination, c'est un crime que d'inciter à l'hostilité. Et nous avons, si vous regardez le rapport, des exemples tirés de la jurisprudence internationale, et je crois qu'il y a quelques plaintes un peu partout en RDC aussi. Merci. Qui peuvent servir de référence et sur lesquels, je pense, il faudrait méditer.
Nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur Abdulaziz Tioy, votre mot de la fin.
Remercier et saluer l'effort, l'initiative par l'honorable Gary et lui exprimer notre disponibilité à aider à améliorer la proposition de loi. Je sais que mes collègues à ma demande, on était en contact avec lui et nous travaillons avec les différentes commissions de l'Assemblée nationale pour faire en sorte que la proposition de loi soit conforme aux standards internationaux. Et comme je l'ai dit encore une fois, il nous faut éviter, en essayant de lutter et prévenir quelque chose, d'en venir aussi à restreindre et limiter quelque chose qui est fondamental à la démocratie, qui est la liberté d'expression.
Merci, professeur Gary Sakata. Comment vous entrevoyez la suite de la lutte que vous avez commencé, n'est-ce pas, à mener contre le tribalisme, la xénophobie et le racisme à travers votre proposition de loi? Comment vous entrevoyez la suite de cette lutte? Et ça sera aussi votre conclusion.
Oui, avant d'y répondre, je voudrais quand même rappeler à l'opinion nationale et voire internationale qu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, l'expérience nous renseigne qu'après l'indépendance, ce sont les relents tribaux et xénophobes qui ont été à la base des ordres qui ont tenté de déstabiliser les pays et conduire à la partition de celui-ci. Donc on doit faire très très attention par rapport à ces trois fléaux, à ces trois phénomènes. Mais aujourd'hui aussi, vous allez remarquer dans la société congolaise, vous entendez, quand vous vivez dans la cité, vous entendez une expression qui revient bien souvent où l'on dit « aimons-nous vivons ». Si vous circulez dans la ville de Kinshasa désormais, vous entendez dire « aimons-nous vivons ». Mais c'est là la preuve ou l'expression qu'un mal social est en train d'engrainer à la société. Et ce mal, c'est quoi? C'est la haine, c'est l'intolérance, c'est la jalousie, et bref, c'est le racisme, le tribalisme et la xénophobie. Je voudrais un peu vous rappeler très brièvement que ce phénomène de tribalisme, xénophobie et racisme est un phénomène vraiment anodin et inutile. Parce que, regardez, tous les citoyens, lorsqu'ils sont au niveau national ici à Kinshasa, ils parlent de leur province. Ils se regroupent autour d'un concept commun, notre province. Mais dites-vous que lorsqu'ils prennent l'avion et descendent dans leur province, ils se regroupent maintenant dans ce qu'ils appellent eux, ce territoire. Et lorsque vous arrivez au niveau du territoire, ils se renvoient au niveau des secteurs, et ainsi de suite. C'est pour moi donc un phénomène vraiment inutile. Pour moi, merci. Ce que j'en prévois pour le futur, c'est que la proposition de loi que le bureau de l'Assemblée nationale mette en plénière cette proposition de loi qui constitue, qui concourt à la stabilité nationale pour que ce dossier puisse effectivement avancer. C'est ce que je voudrais tout simplement dire.
Merci au professeur Gary Sakata et à M. Abdelaziz Tioy d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique et à Donna Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. À la présentation, Guy Massé. Merci et bon suite au programme sur Radio Capitole.